à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Robert Bégoin. Robert Bégoin qui est un homme pas banal par un certain nombre de ses caractéristiques. Robert Bégoin est l'héritier d'une famille, la famille Bégoin, qui a en charge la conservation d'un des joyaux de l'humanité, on peut le dire, qui sont les trois cavernes ou les trois grottes du Volpe en Ariège. Alors ces trois grottes sont assez peu connues du grand public parce qu'elles ne se visitent pas, mais elles sont tout à fait extraordinaires par la qualité de l'art pariétal et par tout ce qu'elles nous apprennent sur la vie des Magdaléniens, puisque il y a environ, enfin Robert Bégoin va nous expliquer tout ça, entre 18 et 20 000 ans, et il y a des hommes qui ont habité là, qui ont décoré ces grottes de façon tout à fait remarquable, tout à fait des œuvres d'art, on peut dire. Et donc, c'est de tout ça qu'on va parler pendant un certain nombre de semaines avec Robert Bégoin. Merci Robert Bégoin d'être venu nous rejoindre ici.
Merci, monsieur Cyr.
Robert Bégoin, tout de suite, je voudrais que vous expliquiez à nos auditeurs l'histoire de cette découverte qui vous a fait, vous, l'héritier d'une dynastie, en quelque sorte, de conservateur de ce lieu magdalénien.
Voilà, alors d'abord, l'histoire de cette découverte, cette découverte n'est pas due à un hasard. Déjà au XIXe siècle, mon arrière-grand-père se préoccupait de l'histoire de l'homme et surtout de son évolution. C'était un adepte de Darwin, mais il était adepte de l'évolution, pourvu que Dieu, bien sûr, en soit à l'origine et la fin. Alors, pour les cavernes du Volpe, tout commence par une excursion que mon grand-père organise pour ses trois fils adolescents dans la grotte d'Enlaine.
Et dans là, ces trois fils, il y avait votre père.
Max, Jacques et Louis Bégoin, mon père.
Louis voilà. Était votre père.
Louis était mon père. Alors, ils vont faire cette excursion dans cette grotte, et il y a un signe du destin qui va arriver par la découverte par Jacques, un de ses enfants, d'une magnifique tête de propulseur. C'est une sculpture en bois de renne, absolument magnifique. Mon grand-père...
Qui est dans votre musée, puisque vous avez un musée sur le site.
Oui, nous avons un musée qui est réservé aux spécialistes, mais... Oui. Voilà. Et donc, cette découverte fait un grand bruit parmi les scientifiques de 1911. On est à Pâques 1911. Mon grand-père la publie en novembre dans l'Anthropologie, le grand journal, la grande revue scientifique de l'époque. Si bien que le propriétaire de la grotte, qui est un ami, M. de Méritas, un voisin, s'inquiète quand même de cette belle découverte en disant que tout de même, si les Bégoins continuaient des fouilles, ça pourrait nuire à la propriété de ce cher monsieur. Et donc il nous écrit une belle lettre en disant « Écoutez, dorénavant, je retire mon autorisation de fouille. » Et c'est de cette difficulté qui surgit que va naître le désir de rechercher d'autres grottes dans la propriété. On est dans un pays calcaire, hein, c'est les petites Pyrénées. Et les trois frères Bégoin, dans les vacances 1912, dans les grandes vacances, en juillet 1912, vont remonter le cours souterrain du Volpe. C'est une petite rivière qui traverse la propriété. Et là, ils vont découvrir la grande caverne du Tuc de Doubert, et au fond de laquelle sont les bisons d'argile.
Alors, il faudrait préciser ce que sont les bisons d'argile et quel est l'intérêt de ces bisons.
Alors, la grotte est jonchée de vestiges. Hein, c'est ouais. Les bisons d'argile en sont l'aboutissement.
Une précision quand même pour nos auditeurs. Oui. Là, vous êtes chez vous, voilà. Enfin, chez votre grand-père.
Voilà, voilà.
Alors que la tête avait été découverte chez un voisin.
Voilà, chez un voisin, pas loin, mais...
Mais bon, les grottes sont donc sur la propriété des Bégoins.
Sur la propriété.
Et vont rester, donc vous allez en rester propriétaire.
Voilà. Alors, devant la multitude, la qualité, la quantité de vestiges découverts, des gravures pariétales, des traces sur le sol, et les fameux bisons d'argile, qui sont deux modelages de bisons de 60 cm chacun, qui sont absolument encore aujourd'hui uniques au monde, toute une philosophie de la conservation va naître, grâce justement à cette culture générale qu'avait ma famille à cette époque-là au moins. Et donc ils vont discerner cette fragilité. Et du coup, ils vont élaborer toute une philosophie de la conservation. Ils vont fermer la grotte, ils ne vont pas l'ouvrir au public, comme c'était la règle autrefois. Ils vont faire un balisage pour qu'on n'aille pas marcher partout et effacer des traces peut-être encore visibles. Ils vont être discrets, etc., etc. Tous des canons qui sont aujourd'hui absolument communs pour les grottes ornées.
Voilà, et il faut dire que c'est tout à fait exceptionnel pour l'époque, puisque si on reprend les grandes découvertes qui sont à peu près sur la même période, c'est-à-dire en particulier Lascaux, mais Altamira, je pense, en Espagne aussi, etc., sont des grottes qui vont tout de suite être ouvertes au public, et finalement, oui. Ça va beaucoup les abîmer, c'est ça?
Oui, absolument.
Alors que vous, elles sont restées intactes, au jour de la découverte.
Ces grottes sont absolument émouvantes encore aujourd'hui, parce qu'elles sont vraiment comme au jour de la découverte. On n'y va que 2 ou 3 fois par an, ce qui fait que très peu de gens les ont vus, un petit millier pour le Tuc de Doubert en 120 ans. Ouais. Et un peu plus, de 2000 environ pour la grotte des Trois Frères. Ouais. Mais c'est très très peu, c'est une journée à Pêche-Mère.
Il y a 3 grottes sur la même colline.
Alors voilà, en 1925, mon père a pu acheter la grotte à M. de Méritas, donc maintenant nous sommes propriétaires de la colline sous lesquelles sont ces 3 grottes.
Ouais.
Et même cette colline, on fait très attention, on ne coupe pas d'arbres, on n'ouvre pas de chemin, on ne plante pas n'importe quoi.
Site classé.
C'est loué en commoda, voilà, et l'État nous a fait la gentillesse de nous classer la commune pratiquement dans laquelle sont ce joyau.
Ouais. Voilà, Pour pas que justement il y ait de risque.
Dans les années 2010, et maintenant ouais. Voilà, on ne peut plus construire dessus, etc.
Ouais. Et donc ces 3 grottes. Vous découvrez la première, celle du vol.
1912, c'est d'abord le Tuc de Doubert.
Le Tuc de Doubert.
Alors, après,
la seconde.
1914. Alors, 2 ans après, les Bégoins, avec l'abbé Auguste, leur précepteur, ce sont des jeunes gens, ouais. leur précepteur, l'abbé Auguste, est un radiesthésiste et avec une baguette de coudrier, ils parcourent la colline sous lesquelles sont les grottes et ils espèrent comme ça suivre le cours souterrain du vol. Et c'est comme ça qu'il y a des paysans qui leur indiquent un trou qui souffle de l'air chaud l'hiver. Ils vont déblayer ce trou et ils vont aboutir dans une grotte totalement inconnue, qui est la grotte qui va prendre leur nom, la grotte des Trois Frères.
La grotte des Trois Frères.
Dans laquelle il y a des milliers de dessins.
Ah oui, des milliers de dessins.
Des milliers de dessins et le fameux sorcier qui est une des figures les plus connues de l'art préhistorique.
Oui. Avec les bisons, peut-être
avec
plus les bisons, que les
voilà,
bisons.
Nos 2 icônes, ouais. Ce sont les bisons d'argile et le sorcier des Trois Frères.
Ouais. Mais il y a des milliers de représentations. Donc évidemment, c'est une espèce de tsunami, j'imagine, dans le monde des archéologues.
Ah oui, ça c'est... Alors ouais. dès 1922, mon grand-père va demander à l'abbé Breuil de prendre la charge du relevé de toutes ces... Et ça va être le chef-d'œuvre de l'abbé Breuil.
Oui.
Là, vraiment, c'est encore aujourd'hui avec Gilles Tozello et Jean-Claude.
Par rapport à Lascaux, on le découvre plus tard.
En 1945.
En 1940. Et Chauvet, non, pour situer, parce que
Chauvet, c'est 1992 ou quelque chose autour.
Donc, quand même, sur le même siècle à peu près, on découvre des chefs-d'œuvre absolus de l'époque magdalénienne.
Oui, c'est Aurignacien, Chauvet, c'est plus...
Ah oui, c'est plus ancien. Oui, oui. Chauvet, c'est à peu près 30 000 ans.
Voilà, 35.
Et Lascaux et vous,
c'est
à peu près...
Lascaux, c'est 20 000 et nous, 17 000, enfin à peu près.
Oui.
Il y a plusieurs visites dans les grottes, il n'y a pas qu'une seule date.
Oui, bien sûr. Oui. Mais donc, c'est quand même une période, en particulier Lascaux et vous... où les hommes habitaient dans notre région, ici. Là,
ah oui, c'est l'homme de Cro-Magnon, hein, c'est l'homme moderne.
C'est l'homme moderne.
Qui arrive vers 45 000 ans en Europe.
Ouais. Et là, qui vont quand même avoir toute une activité autour de la représentation de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent.
Ils vont imaginer l'image. Ça, c'est une révolution culturelle, intellectuelle et spirituelle extraordinaire.
Alors, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai eu la chance d'aller... Enfin, j'ai visité Lascaux. Maintenant, il y a énormément de visiteurs dans les facsimilés qui sont parfaits, qui sont faits vraiment de façon extrêmement rigoureuse. Et donc, quand on visite ces grottes, comme il y en a d'autres en Ariège, la grotte de Niau, etc.
Bien sûr, le portail.
On est frappé par le mouvement.
Ah oui, ils étaient fascinés par les animaux. Ouais. Les animaux sont beaucoup plus représentés que les humains. Beaucoup plus représentés.
Très peu d'humains représentés et des animaux en mouvement, souvent.
Des animaux en mouvement, des animaux morts, des animaux les pattes en l'air, dans toutes les positions.
Ouais.
C'est vraiment un jaillissement intellectuel incroyable et artistique.
Et alors, pour finir sur la description de ces grottes, quelle est la profondeur? Est-ce que c'est au début ou est-ce que c'est à la fin?
Non, c'est les grottes ont été totalement investies par les hommes préhistoriques. Si bien que même peut-être le fait d'aller faire tel ou tel dessin à tel ou tel endroit avait une signification que nous ne pouvions plus... On ne peut plus le percevoir, ça.
Ouais.
Mais ils ont investi totalement l'espace.
Parce qu'ils utilisent aussi le relief de la pierre elle-même pour...
Voilà, parce que d'abord, la grotte avait sans doute une signification en elle-même. Et puis après, alors le relief, les fissures, tout ça a été parfaitement utilisé, vu ce qui fait qu'ils avaient une grande connaissance intime des parois de chaque salle de la grotte.
Dans le noir absolu.
Dans le noir absolu.
Oui. Et le silence.
Ils avaient une petite lampe quand même.
Ils avaient des petites lampes, mais enfin, c'est quand même. On imagine que c'était,
oui, c'était
l'environnement.
C'était précaire.
Et le silence.
Et le silence.
Et le silence presque absolu, quoi, quelques gouttes d'eau de temps en temps.
Ah oui, absolument.
Ouais. Donc tout ça, ils le dessinent à des endroits où ils n'habitent pas. C'est
absolument.
Bien ça.
C'est pour ça qu'on appelle ces grottes des grottes sanctuaires,
ouais.
Parce que c'est éminemment spirituel.
Voilà.
Par contraste à la grotte Habitat, où l'on trouve les traces de leur vie de tous les jours, tandis qu'on ne trouve pas ces mêmes traces, pas du tout, dans les grottes sanctuaires. Ils n'y vont que pour faire leur cérémonie.
Leur cérémonie et leur représentation.
Leur représentation, qui sont autant de contacts peut-être avec les esprits, leurs dieux.
Oui, ça c'est ce qu'on imagine.
C'est ce qu'on imagine.
Bien, Robert Végoin, merci de nous avoir présenté les trois cavernes du Volp. Rapidement, trop rapidement, mais j'indiquerai dans votre prochain passage chez nous comment on peut aller visiter virtuellement au moins, on en reparlera. Merci Robert Végoin.
Merci Monsieur Messire.